Vous écoutez Naturezo, le podcast, l'émission consacrée à l'actualité des zoos et parcs animaliers en France. Bonjour à tous les passionnés de parcs zoologiques et bienvenue dans cet épisode numéro 24 de notre podcast. Alors, on va revenir dans cet épisode sur les actualités du mois de mars 2023. Et comme d'habitude, je suis accompagné de Victor.
Salut Florian, bonjour à tous.
Et donc avant de commencer cet épisode, on va vous partager encore un message qu'on a reçu sur la messagerie, sur Messenger. Un message de Maceo qui nous dit je voulais vous dire que j'ai écouté l'épisode concernant les diables à la ménagerie du jardin des plantes et j'ai vraiment beaucoup aimé le concept de l'épisode. C'est super intéressant d'en apprendre plus sur le management d'une espèce rare et de plus avec l'intervention d'une professionnelle. J'espère que vous aurez l'occasion de faire d'autres épisodes de ce style car j'ai vraiment beaucoup aimé.
Voilà, ouais, on espère aussi.
Voilà, on espère nous aussi en refaire. C'est vrai que c'est intéressant et ça sort un peu de l'ordinaire.
Ouais. C'est pas facile à mettre en place parce que, encore une fois, question logistique, faire un enregistrement de podcast, c'est pas évident. Mais on essaiera d'avoir des invités comme ça. Mais il faut aussi trouver les bons sujets. Mais ne vous inquiétez pas, on y travaille et on espère que ça sera fait dans le courant de l'année. Alors, l'épisode des diables, c'était le 17.
C'était le 17.
Pour ceux qui veulent l'écouter, qui ne l'ont pas encore fait.
Et on l'avait sorti au mois de septembre, il me semble.
Ouais. Octobre, fin octobre.
Fin octobre au début, ouais. Donc à l'automne.
Voilà. Donc merci pour ce message. N'hésitez pas, hein, si vous en avez, si vous avez des mots à nous faire passer, des petits messages à nous envoyer, on vous répondra avec grand plaisir. Et quand vous êtes d'accord, on partage vos messages dans nos épisodes d'actualité comme c'est le cas ici. Et si vous voulez, vous pouvez nous envoyer aussi des petits messages audio si vous trouvez que c'est plus pratique et si vous avez beaucoup de choses à dire. Essayez d'être assez concis quand même, mais on essaiera de les partager aussi dans le podcast. On va partir faire un petit tour des actualités. On va commencer par un petit point sur les travaux en cours dans les zoos en France. On a une actualité chargée sur ce mois de mars. Le printemps est bien arrivé, bien installé. Il y a beaucoup de naissances. Il y a beaucoup de transferts, beaucoup de nouveautés qui se mettent en place. Et on ira à la fin aussi faire un petit tour dans les eaux européens pour vous partager quelques petites actualités. Du côté des travaux, on va commencer aux eaux de Montpellier, où ça bouge un petit peu ces dernières semaines. Il y a eu dans un premier temps l'installation d'une ombrière taille XXL dans l'enclos des girafes et des gazelles de mort, qui offrira un petit peu plus d'ombre aux animaux. Et il y a eu ensuite des travaux dans l'enclos des tapirs terrestres et des nandous qui ont pour but d'aménager et d'augmenter la taille et la profondeur du bassin dans lequel se baignent les tapirs pour leur permettre de s'immerger un petit peu plus dans l'eau. Et le temps que les équipes travaillent sur cet enclos, les tapirs sont restés à l'abri des regards tandis que les nandous étaient déplacés dans un autre espace. Direction maintenant la ménagerie du jardin des plantes qui réaménage l'espace des pandarous. Depuis le décès du dernier pensionnaire l'an dernier, le parc n'abrite plus cette espèce et espère de nouveau en présenter au public au printemps. Pour cela, l'espace se refait une beauté avec l'ajout de nombreux nouveaux agrès sur plusieurs étages pour permettre aux pandarous qui sont constamment en hauteur d'avoir davantage d'activité et le premier individu devrait arriver dans les prochaines semaines. Nombreux petits aménagements et gros travaux aussi aux zoos de Maubeuge cet hiver. Les aménagements, d'abord, il y a eu énormément de petites choses de fait, des rénovations de volières, de chemins de visite, de nouveaux planchers sur certaines terrasses, nouveaux points de nourrissage pour les girafes, nouvelles plateformes pour les fauves, plantation de végétaux et nettoyage de bassins. Et puis, il y a eu un gros chantier qui concernait plutôt les coulisses du parc, mais qui représente un coût de 800 000 euros quand même. Il s'agit du raccordement à un puits d'eau industriel pour le parc, ce qui devrait lui permettre de ne plus consommer d'eau potable pour le nettoyage, pour l'arrosage des plantes, pour le remplissage des bassins, mais aussi pour différents soins apportés aux animaux. Le chantier a été l'occasion aussi d'installer de nouvelles bornes pour rendre l'accès à l'eau plus pratique pour les employés à travers le parc. Et tout cela est bénéfique pour tout le monde. C'est une économie financière d'abord, puisque l'eau industrielle, elle est beaucoup moins chère que l'eau potable. Et c'est aussi c'est économique en eau potable également, parce que du coup, en utilisant l'eau industrielle, le parc n'utilisera plus d'eau potable. Comme chaque mois, on va faire un petit passage par le zoo d'Amiens qui avance sur les deux importants chantiers des futures années. La nouvelle entrée est l'espace savane qui devra être prêt entre 2025 et 2026. Et c'est dans l'espace savane qu'on a eu quelques infos récemment avec la construction de deux grandes volières. L'une d'elles sera d'ailleurs accessible au public, donc les visiteurs pourront rentrer dedans. Et il y aura aussi un bâtiment qui accueillera un vivarium. Les volières seront consacrées à diverses espèces. On parle de calaos terrestres, marabouts, tortues sillonnées, touracos, tisserins, etc. Alors que le vivarium devrait abriter serpents et lézards, entre autres, avec toujours cette thématique centrée sur le Sahel africain. Parmi les nouveautés d'Ecozonia cette année, on va finir là-dessus sur les travaux, il y a la construction d'une nouvelle volière qui est actuellement en cours. Une double volière de 100 mètres carrés, elle fera 6 mètres de hauteur et permettra d'y installer un couple de grands-ducs de Sibérie. La femelle était déjà présente et elle vivait temporairement dans le deuxième enclos des châles léopards de Sibérie, investi depuis peu par les trois femelles arrivées cet hiver. Mais le mâle n'est arrivé que récemment et cette nouvelle structure doit s'achever très bientôt. Et elle marque surtout la fin de la zone consacrée au Kraï du Primorier, la première écozone sur les quatre qui sont prévues par le parc. Et la prochaine devrait commencer à voir le jour dès l'année prochaine, en 2025. Elle s'appellera la Terre des Incas et elle sera dédiée à la province du Lambayeque au Pérou. Il serait question notamment d'ours à lunettes, d'oslo, de coatirou, de taïra et de puma, ainsi que de nouveaux lodges. Pour l'instant, on n'a pas de précision, mais même sur les espèces, hein, tout peut évoluer d'ici là. Mais on va suivre tout ça avec passion, évidemment, comme d'habitude, et on vous partagera tout ça au fur et à mesure. Passons au Carnet Rose maintenant.
Ouais, au Carnet Rose qui est, comme tu l'as dit, très très rempli pour ce mois de mars. Alors on va commencer par une naissance qui, je pense, a marqué un petit peu tous les passionnés comme nous dernièrement. C'est celle de deux petites femelles loups à crinière qui sont nées le 12 janvier dernier au bioparc de Douai-la-Fontaine. Alors il s'agit des tout premiers petits pour la femelle qui est âgée de 4 ans et qui s'en occupe toute seule. Bien qu'elle partage le même espace avec le mâle lui il reste à l'écart des petits et prend pas part à l'éducation des jeunes. Alors la femelle, elle a mis bas d'abord dans un massif de bambou, elle a creusé un tout petit trou, et après elle a déplacé les petits dans une tanière qu'elle a creusée assez profondément sous des rochers. Alors les petits, désormais, ils sont visibles à l'extérieur, et à leur naissance, ils avaient le pelage entièrement noir avec seulement le bout de la queue blanche, et le pelage deviendra ensuite orangé à l'âge de 15 semaines environ, donc là, à l'heure où on enregistre, c'est dans pas très très longtemps. Et les petits auront atteint leur taille adulte à 1 an, après quoi il sera temps pour eux de partir vers d'autres parcs zoologiques européens pour certainement fonder à leur tour une famille. Alors c'est la toute première naissance de loup à crinière depuis 10 ans pour le bioparc de Douai-la-Fontaine, la dernière naissance remontée à 2014. Et le loup à crinière, c'est une espèce de canidé sud-américain assez méconnu du grand public. L'espèce est classée quasi menacée. Il y a environ 17 000 individus dans la nature et les populations sont menacées par la dégradation de l'habitat, la chasse, les collisions routières et les conflits avec les éleveurs. Et l'espèce fait également l'objet d'un programme d'élevage européen à travers les eaux d'Europe. Voilà, donc une bonne nouvelle pour les loups à crinière.
On avait eu une belle année sur les loups à crinière, là, il y a 2-3 ans. Là.
Oui.
Et après, plus rien, plus de naissance. Ouais.
Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas eu.
Ouais, donc ça redémarre, c'est sympa.
C'est cool. Ensuite, on va passer aux primates. Le carnet rose est assez chargé chez les primates pour ce mois de mars. À commencer par un petit langur de Java, qui est né le 15 janvier au zoo parc de Beauval. Alors le parc n'a pas encore communiqué le sexe du petit. Et en parallèle, un autre petit langur de Java est né au zoo parc de Trégomeur en Bretagne. Là aussi, on ne connaît pas encore le sexe du bébé. Alors à savoir que chez cette espèce, les langurs de Java, en fait, tous les petits vont naître roux, donc un petit peu orangés, et vers 3 à 4 mois, soit ils vont conserver cette robe orangée, soit ils vont devenir entièrement noirs, indépendamment du sexe.
Voilà. D'accord, c'est ce que j'allais te demander, ouais.
Voilà, donc ça c'est... c'est les lois de la génétique, on va dire. Hein. Alors le langur de Java, c'est une espèce qui est classée vulnérable et qui est assez rare en parc zoologique en France, du moins, avec seulement 4 parcs qui hébergent l'espèce. Et donc les naissances sont assez peu courantes.
Et bientôt 5.
Bientôt 5, ouais.
C'est avec vrai. Branferré qui espère en avoir cette année.
C'est vrai. Et en plus du petit langur de Java, Trégomeur a vu naître aussi un petit gibbon à favori blanc du Nord en début d'année. Et là, c'est une espèce encore plus menacée que le langur de Java puisqu'elle est classée en danger critique d'extinction. Ensuite, pour continuer chez les primates au safari de Pogre, un petit mandrill est né aussi en début d'année. Alors là, le petit, il est visible aux côtés de sa mère, sur laquelle il reste encore très fermement accroché. Le petit n'a pas encore été identifié, pardon, et il vient compléter le groupe qui s'agrandit quasiment chaque année à Pogre chez les mandrills, ce qui permet au parc de participer activement à l'EEP du mandrill, donc au programme d'élevage européen. Et c'est une bonne nouvelle aussi pour la conservation de cette espèce classée vulnérable. Alors en plus du petit mandrill, Pogre a aussi vu naître une petite femelle saki à face blanche en novembre dernier, et ainsi que deux femelles tamarins pinchés en septembre avant. Et du coup, comme ils sont fidèles au poste, les tamarins pinchés en termes de naissance, on en a aussi eu un à la Palmyre récemment et au zoo d'Asson.
Ouais.
Zoo d'Asson qui a aussi vu naître deux petits makikata dernièrement, et quant au zoo de Maubeuge, lui aussi a vu naître un petit makikata tout récemment. Donc on rappelle que c'est une espèce quand même classée en danger d'extinction, bien qu'elle soit très représentée à travers les zoos français et même européens.
Ouais.
Toujours chez les primates, on a deux petits ouistiti pygmées qui sont nés à la vallée des singes récemment. Le ouistiti pygmée, c'est le plus petit singe au monde et c'est une espèce classée vulnérable. Donc là encore, une bonne nouvelle pour la conservation de l'espèce. Deux tamarins labiés sont nés au zoo d'Amiens le 16 janvier. Alors là, le couple du parc avait déjà donné naissance à d'autres jumeaux l'année dernière, en juin 2023. Cette espèce fait elle aussi l'objet d'un EEP et elle est visible dans seulement 6 zoos à travers la France. Et donc tous ces petits que je viens d'évoquer, ils restent encore fermement accrochés au dos de leurs parents, soit de leur père, soit de leur mère, ça dépend des espèces, et sont élevés par tous les membres de la famille, notamment chez les tamarins en particulier, tous les membres d'un même groupe vont participer à l'élevage des jeunes. Et pour terminer avec les primates, on a un petit gelada également qui est né au Lumini Safari Reserve, donc l'ex-parc zoologique de Lumini, on va dire.
Ouais.
Ensuite, chez les naissances, on a quatre petites loutres naines d'Asie qui sont nées à African Safari, près de Toulouse, ainsi que deux autres qui sont nées au parc animalier d'Auvergne récemment, donc une bonne nouvelle pour la conservation de cette espèce classée vulnérable. Ensuite, on a un petit Taurix Beiza qui a vu le jour à la réserve zoologique de la Haute Touche, là aussi une espèce vulnérable, ainsi que deux antilopes Nilgo, donc une grande antilope asiatique. Ensuite, deux Sitatunga, qui est une petite antilope africaine, ont vu le jour au zooparc de Beauval, ainsi que trois mangoustes naines. Le zoo de la Flèche a vu naître récemment un petit flamand du Chili, qui est une espèce, faut le rappeler quand même, classée quasi menacée, on aurait tendance à l'oublier, mais le flamand du Chili est classé quasi menacé.
Personnellement, je l'avais oublié.
Voilà, c'est toujours bon de le rappeler. Et pour terminer, on a plusieurs rapaces qui sont nés aux aigles du Léman, dont un pygargue à queue blanche qui pourrait potentiellement participer au programme de réintroduction de l'espèce en France.
Ouais, il devrait y en avoir de plus en plus, je pense. Hein.
Ouais, il va y en avoir.
Sur la saison des naissances a commencé chez eux, alors
ouais, exactement.
Je pense qu'il y en aura d'autres.
Voilà, donc j'ai terminé avec les naissances et je vais te laisser poursuivre avec les nombreux transferts.
Ouais, alors nombreux, je sais pas. Parce que j'ai peut-être fait un petit peu de tri, mais il y a quand même quelques petites infos à vous donner. On va commencer avec une nouvelle pensionnaire pour la réserve zoologique de la Haute Touche. Elle s'appelle Maya et c'est une jument de Przewalski qui est arrivée du zoo de Santillana en Espagne. Elle rejoint un mâle et une femelle qui vivent déjà au parc et vient pour constituer un petit groupe reproducteur, à savoir que c'est une espèce qui vit en petits groupes familiaux composés d'un mâle, de une à trois femelles et de leurs jeunes. Et après avoir été déclaré éteint dans la nature, le cheval de Przewalski a été reclassé en danger critique d'extinction en 2008, puis en danger en 2011. Preuve de l'efficacité des programmes d'élevage et de réintroduction. Et je crois que d'ailleurs que Florian aura quelques petites choses à nous dire à ce propos tout à l'heure.
Oui, exactement.
Autre arrivée à la Haute Touche, il y a eu celle d'un mâle gru du Japon en provenance de planète sauvage, mais aussi l'arrivée de Gao, c'est un mâle tortue sillonné de 24 ans, qui vient du bioparc de Douai-la-Fontaine. Ensuite, en février dernier, il y a deux loups arctiques du CERSA qui ont quitté le parc normand pour être transférés vers le Edmonton Valley Zoo au Canada. Il s'agit de deux sœurs âgées de 2 et 3 ans et issues de deux portées différentes. Après plusieurs semaines de quarantaine depuis leur arrivée sur place le 14 février, les deux femelles elles vont pouvoir découvrir progressivement leur nouvel environnement et rencontrer Tundra, un mâle qui vit seul depuis le décès de sa partenaire il y a plusieurs mois. Ce transfert intercontinental a nécessité de longs mois de préparation pour Cerza, comme pour le parc canadien. Et dans les prochains mois, les trois loups devraient bénéficier d'un nouvel enclos de 5000 m² qui est actuellement en cours de construction dans le parc, et ils pourront former une meute que les équipes espèrent voir se reproduire rapidement. Au début du mois de février, toujours, l'espace zoologique de Saint-Martin-la-Plaine a accueilli une nouvelle femelle ours mâlée. Celle-ci est âgée de 4 ans et demi, elle arrive tout droit du Burger Zoo d'Arnhem, aux Pays-Bas, où elle a vu le jour. Et il y a quelques semaines, on vous en avait parlé dans un des précédents épisodes, il y a une autre femelle, une autre jeune femelle ours mâlée qui a quitté le parc hollandais pour la France. Il s'agit de Madou, elle est aussi âgée de 4 ans, elle avait rejoint le zooparc de Trégomeur en Bretagne. La population d'ours mâlés dans les zoos européens n'est composée que de 34 individus, 10 mâles et 24 femelles. Et la reproduction de cette espèce actuellement considérée comme vulnérable par l'Union internationale pour la conservation de la nature est particulièrement rare et complexe. À Saint-Martin-la-Plaine, la jeune femelle elle va rencontrer Sai. C'est un mâle d'une vingtaine d'années qui avait été confié au parc par l'association Free the Bears Fund en 2008, alors qu'il allait être utilisé dans une ferme de Bille en Asie. Il avait été rapatrié en France et il vit depuis à Saint-Martin-la-Plaine une vie heureuse. Une jeune femelle lémure aux yeux turquoise a rejoint la réserve zoologique de Calviac ces dernières semaines. Elle s'appelle Alina, elle est âgée de bientôt 2 ans et elle arrive en provenance du zoo d'Appenheul aux Pays-Bas dans le cadre du programme d'élevage européen coordonné par le parc zoologique et botanique de Mulhouse en France. Cette jeune femelle, elle rejoint Sidoine, une femelle d'une trentaine d'années, mais surtout Maou, un mâle de 9 ans qui est arrivé en mai 2023 à Calviac et vers qui les espoirs de reproduction se sont tournés. Je vous l'avais évoqué justement il y a quelques semaines. En décembre, Maou il s'est prêté à un contrôle de fertilité recommandé par l'EEP qui a révélé qu'il était apte à se reproduire et qui a conduit à l'arrivée de cette nouvelle jeune femelle à ses côtés. Cette espèce de lémurien elle se reproduit très très peu en parc zoologique, mais les naissances sont quand même essentielles pour maintenir une diversité génétique importante en cas d'éventuelle future réintroduction d'individus dans la nature. Le lémur aux yeux turquoise est hébergé dans seulement une dizaine d'établissements à travers l'Europe. Il y en a 3 en France et l'espèce se trouve classée en danger critique d'extinction. La réserve zoologique de Calviac travaille aussi en étroite collaboration avec l'AEECL, c'est l'Association Européenne pour l'étude et la conservation des lémuriens, qui a créé une aire protégée sur la presqu'île de Saamalaza, dans le nord-ouest de Madagascar, afin de préserver cette espèce gravement menacée. Et dans les transferts un petit peu pêle-mêle pour finir cette partie, on a eu le départ de 2 cercopithèques de Brazza du zoo de la Palmyre vers le Five Sisters Zoo en Écosse. Il y a eu aussi le départ de Dolma, une femelle panthère des neiges de l'espace zoologique de Saint-Martin-la-Plaine qui est partie vers un zoo en Autriche. Et le parc a aussi fait partir 3 loups du Canada vers le Pal, c'est pas très loin. Il y a eu l'arrivée d'une vigogne au Tour au Parc en provenance du parc zoologique de Paris, le départ d'une petite femelle panda roux du zoo de la Boissière du Doré vers le zoo African Safari. Une femelle caracal de 6 mois s'est installée au zoo d'Amnéville pour être présentée au mâle qui vit déjà au parc. On a aussi vu l'arrivée d'une femelle guépard au zoo de Montpellier en provenance du Safari Park Bixbergen aux Pays-Bas, le départ du jeune jaguar né au zoo de Bordeaux-Pessac en 2022 vers un zoo en Pologne où il va rencontrer une femelle. Le départ aussi d'un des tapirs terrestres du parc de l'Auxois, lui aussi vers un zoo polonais. Et on termine, on parle encore de la Pologne. Le spécifique zoo s'est séparé de ses 2 mâles chats de Palace, les chats manoules, dans le cadre de l'EEP évidemment. L'un est parti au zoo de Prague en République tchèque et l'autre au zoo de Cracovie en Pologne. Et notez que le spécifique zoo ne devrait pas abandonner cette espèce, mais vous en reparlera quand on aura un peu plus d'informations. Pour l'instant, il n'y a plus de chat manoule au spécifique zoo, mais peut-être que d'ici quelques mois, il y en aura de nouveau.
Enfin, on l'espère.
On l'espère, oui, parce que l'espèce disparaît des zoos à vitesse grand V là, ces derniers temps.
Ouais.
C'en est presque inquiétant, mais bon, je pense que ça va se rectifier prochainement. Je te laisse avec les mauvaises nouvelles de ces dernières semaines.
Ouais, on va parler des décès qui ont été annoncés récemment, à commencer par celui de Junga, qui était la femelle panthère des neiges du bioparc de Douai-la-Fontaine. Elle est décédée le 12 mars dernier, à l'âge de 12 ans, des suites d'une infection malgré tous les soins réalisés par les équipes et une opération effectuée dans une clinique spécialisée. Junga, elle était née dans un zoo hongrois en 2012 et arrivée au bioparc de Douai-la-Fontaine en 2014, où elle a donné naissance à deux petits en 2021, qui sont aujourd'hui partis vers d'autres zoos européens. Et elle laisse donc seule Armin, le mâle avec qui elle cohabitait avant. Voilà, alors, ça ne devrait pas trop poser de problème, sachant que c'est une espèce solitaire à la base. S'il y a de fortes chances que le parc prévoit d'accueillir une nouvelle femelle prochainement. Donc elle va laisser bien évidemment un grand vide, parce qu'elle était très connue des habitués du parc notamment. Donc voilà, elle va beaucoup nous manquer. Ensuite, à Thoiry, donc le zoo safari de Thoiry a perdu Juma, de son vrai nom Juma Pili, qui était le mâle girafe de Cordofan, qui est décédé brutalement à l'âge de 12 ans suite à une chute qui a malheureusement entraîné une fracture du bassin qui n'est pas résorbable chez les girafes. Voilà. Et donc là aussi, c'était un animal très emblématique du parc. Et ça, malheureusement, chez les girafes, des chutes comme ça, c'est très souvent fatal.
Ouais.
Donc c'était forcément inattendu par les équipes, donc quand ça arrive brutalement comme ça.
C'est ce qu'on redoute à chaque fois chez les girafes. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Les terrains glissants.
Ouais, voilà. Donc on souhaite beaucoup de courage aux équipes de Thoiry.
Ouais.
Et pour terminer, le zoo de Lyon a perdu Tara, qui était une de ses femelles pandaro. Alors c'était la femelle reproductrice, elle est décédée en novembre dernier à l'âge de 10 ans suite à une insuffisance hépatique chronique, pardon, et certainement virale. Elle avait rejoint le parc en 2013, où elle avait donné naissance à deux petits en 2018 et trois ensuite en 2019, dont une femelle qui est toujours présente au parc aux côtés de son père Lotus, qui était du coup le compagnon de Tara, la femelle décédée. Mmh. Voilà pour les quelques décès.
Ouais. On va passer aux nouveautés. Alors, la partie diverse et nouveautés, mais là... Il y a beaucoup de nouveautés. Pour commencer avec cette partie, vous avez sûrement écouté notre épisode sur les nouveautés dans les zoos en France en 2024. C'était l'épisode 22. Vous avez été très nombreux à l'écouter d'ailleurs. Peut-être à nous découvrir grâce à lui. Donc si c'est le cas, bienvenue à vous et merci de nous écouter. Eh bien, sachez que nous avons sorti un article associé à cet épisode dans le courant du mois de février qui revient sur tout ce qu'on a dit, mais également quelques infos en plus, quelques petites corrections aussi parfois. Disons que l'article est peut-être un peu plus abouti que l'épisode, mais c'est pas grave, ils sont complémentaires tous les deux. Et comme d'habitude, au fil des épisodes, on reviendra sur toutes ces nouveautés. On aura également des articles un peu plus ciblés, évidemment, on adore ça. Et on vous tient informés de tout chaque mois dans tous nos épisodes. Donc n'hésitez pas à aller le consulter, il est dans les actuels à une sur natureseau.fr. Il est assez facilement trouvable aussi sur votre moteur de recherche, je pense. Et vous pouvez découvrir tout ça calmement, il y a quand même beaucoup de choses. Il faut prendre le temps de le lire pour avoir ce grand tour de France des nouveautés en France. Le parc Biotopia à Dunkerque, parlant des nouveautés, présente depuis peu une toute nouvelle espèce. Il s'agit d'un jaguar ondi, c'est un félin aux allures de loutre originaire d'Amérique du Sud. Et Biotopia vient d'accueillir un jeune mâle qui s'appelle Cody. Il vient de fêter son premier anniversaire en février dernier. Il est arrivé au mois de janvier en provenance du zoo de la Flèche où il est né l'année dernière. Le nouveau pensionnaire du parc a été installé dans un enclos réaménagé au niveau de la volière des cigognes. Pour le moment, il se familiarise doucement avec son nouvel environnement, mais aussi ses nouveaux soigneurs. Il est déjà visible des visiteurs du parc depuis la réouverture en février. Et par la suite, les équipes de Biotopia espèrent accueillir une femelle jaguar ondi et pourquoi pas former un couple reproducteur de ce félin assez méconnu du grand public. Les visiteurs des Legendia Park peuvent découvrir depuis quelques semaines une nouvelle volière qui est consacrée au Kariama UP. Elle est installée dans la boucle rouge du parc, avec une nouvelle structure. Elle offre à Pirouette et Salto, les deux Kariama UP de Legendia Park, un espace qui a doublé de volume et qui sera progressivement aménagé en fonction de leurs besoins dans le but de garantir leur bien-être au quotidien. Cette nouvelle volière, elle marque aussi le commencement d'une nouvelle ère pour pour Legendia Park. Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'infos à ce sujet. On préfère garder le secret du côté du parc, mais il est possible que de nouvelles structures, de nouveaux enclos et de nouvelles espèces arrivent à cet endroit dans les prochains mois ou les prochaines années. Côté nouveauté toujours, même si c'est quelque chose qui date de l'an dernier, on n'avait pas encore eu l'occasion de vous en parler, mais vous pouvez aussi retrouver dans nos derniers articles un sujet sur les nouveaux enclos consacrés aux lions et aux guépards du zoo de la Flèche. Alors on y rentre dans les détails, notamment grâce à Cyril Hu, le vétérinaire du parc, qui nous a accordé beaucoup de son temps, et qu'on remercie d'ailleurs pour ça. On essaiera de vous en parler un petit peu plus en détail encore dans les prochaines semaines, notamment avec l'ouverture de la nouvelle plaine africaine, qui permettra aux girafes du zoo de la Flèche d'être enfin relogées. Donc on va voir pour organiser quelque chose et vous parler de tout ça en même temps dans un prochain épisode. Et enfin, dans le reste des nouveautés, on a aussi eu vent de l'une des nouveautés 2024 de Parrot World, dont on n'avait pas encore entendu parler. On vous avait partagé l'arrivée des maras dernièrement, notamment dans l'épisode sur les nouveautés en France. Mais ce n'est pas tout, puisque dans les prochaines semaines, le parc ouvrira le hall de la biodiversité. Ce sera situé près de l'entrée. On devrait y voir débarquer trois espèces sud-américaines. Le tamarin labié, le piranha à ventre rouge et le caïman de cuvier. Donc pour le moment, on n'en sait pas beaucoup plus. Mais ce sera très intéressant de suivre ça aussi. Et on n'hésitera pas, comme d'habitude, à vous partager tout ce qu'on apprend. Voilà pour les nouveautés, voilà pour la majeure partie des actualités. Il va nous rester de bonnes infos, des infos positives avec la conservation, et je te laisse la parole.
Ouais, on va parler de bonnes nouvelles au niveau de la conservation, et on va parler en particulier du zoo de Pêcheret, qui a récemment participé à deux programmes de réintroduction. Alors le premier dont je vais vous parler, concerne les bisons d'Europe, puisque le parc a récemment envoyé deux bisons d'Europe en Azerbaïdjan. Alors l'Azerbaïdjan, c'est un petit pays vraiment à l'extrême sud-est de l'Europe, en novembre dernier, dans le but de les réintroduire dans la nature. Alors il s'agit de deux jeunes femelles qui étaient nées au parc en 2021 et 2022 et qui ont dû quitter le groupe de pêcherie qui était désormais composé de 10 individus, donc un beau groupe, pour éviter notamment la reproduction avec leur père. Alors elles sont d'abord parties, ces femelles, pour le zoo de Berlin en Allemagne, en compagnie de deux autres femelles du groupe de pêcherie, donc qui est une mère et sa fille qui n'est pas encore sevrée. Alors du coup, ces deux dernières, elles sont restées à Berlin afin de ne pas être séparées. Et les deux autres femelles ont ensuite pris la route de l'Azerbaïdjan aux côtés de six autres femelles et deux mâles, donc nés dans des zoos en Suède, en Roumanie, en République tchèque et en Allemagne. Donc tous ces bisons ont été d'abord regroupés au zoo de Berlin, qui s'est ensuite chargé du transfert jusqu'en Azerbaïdjan. Alors là-bas, les bisons ont rejoint le parc national de Chadag, au nord du pays, où ils intégreront une immense réserve où vivent déjà plusieurs dizaines de bisons qui ont eux aussi été réintroduits il y a quelques années. Alors les 10 bisons seront d'abord équipés de colliers GPS afin de suivre après leur déplacement au sein de la réserve. Et avant leur relâcher définitif, avant de les relâcher dans cette réserve-là, les bisons sont placés dans un vaste pré-parc, donc en vue d'une phase d'acclimatation. Donc ça, c'est toujours comme ça dans une réintroduction, quelle que soit l'espèce. On place d'abord les animaux dans un enclos, une volière d'acclimatation, avant de les relâcher complètement dans le milieu naturel. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et du coup, pour parler un petit peu de la situation du bison d'Europe, c'est une espèce qui a failli disparaître, qui a frôlé l'extinction au XXe siècle, notamment à cause de la disparition grandissante de son habitat, mais aussi de la chasse. Les bisons d'Europe étaient tués pour leur viande ou pour en faire de simples trophées. Et c'est uniquement grâce à la présence d'une cinquantaine d'individus dans plusieurs parcs zoologiques en Europe que l'espèce a été sauvée d'une extinction totale. L'ensemble de la population actuelle de bisons d'Europe, elle descend de seulement quelques géniteurs fondateurs qui vivaient dans des eaux européens, notamment en Allemagne. Alors aujourd'hui, le bison d'Europe est une espèce qui est considérée comme vulnérable par l'UICN, et il y a plusieurs parcs qui participent à cette réintroduction, il n'y a pas que Pêcheret. Et pour le zoo de Pêcheret, pardon, ce n'est pas la première fois que le parc participe à ce programme de réintroduction, puisqu'il avait déjà envoyé en 2019 plusieurs individus en même temps que d'autres zoos français, dont le zoo safari de Thoiry et le parc animalier de Sainte-Croix, vers l'Azerbaïdjan. Les efforts de conservation et de réintroduction ont permis à l'espèce ensuite d'atteindre aujourd'hui une population d'un peu plus de 8000 individus. Et au parc national de Chagad, il est réputé pour la réintroduction des bisons d'Europe, et ce parc s'étend sur plus de 130 000 hectares. et jusqu'à présent, le programme a permis de réintroduire près d'une quarantaine d'individus qui se sont par ailleurs déjà reproduits là-bas, sur place. Et il prévoit pour 2028 un total de 100 bisons au sein du parc national, donc des bisons tous nés en parc zoologique et réintroduits ensuite dans les milieux naturels.
Ouais.
Et donc ensuite, le second programme de conservation qui concerne le zoo de pêcherie, c'est celui des vautours fauves. Il faut savoir qu'en mai 2023, le zoo de pêcherie a vu naître son tout premier vautour fauve de son histoire depuis l'ouverture du parc. Et ce petit a été sélectionné pour être réintroduit en Sardaigne cette année, donc une île au large de l'Italie. Alors les équipes ont attendu qu'il soit capable d'abord de se nourrir seul et qu'il commence un peu à s'émanciper de ses parents avant de le placer dans une volière à l'écart en vue de son départ. Alors ce petit vautour, il a été sélectionné au vu de son patrimoine génétique très intéressant puisque ses parents sont en fait issus du milieu naturel directement. Pêcheret les a accueillis après qu'un centre de soins de la faune sauvage en Espagne les ait récupérés car ils étaient blessés dans la nature. Et aujourd'hui, les parents sont incapables de voler, comme c'est souvent le cas d'ailleurs sur des vautours que les parcs récupèrent. Souvent, les individus ne peuvent plus voler et du coup ne peuvent pas être réintroduits dans la nature. Et c'est la descendance de ces oiseaux-là qui souvent participent au programme de réintroduction.
Ouais.
Alors jusqu'à son départ, les équipes préparent au mieux le retour à la vie sauvage de ce vautour en le nourrissant sur un cycle qui soit le plus naturel possible. Avec des jours de jeûne, donc le vautour n'est pas nourri tous les jours, comme ce serait le cas dans la nature, il ne mange pas tous les jours. Les soigneurs animaliers vont le nourrir avec des morceaux de viande plus ou moins gros pour l'habituer à se nourrir sur différents types de carcasses après dans la nature. Et les équipes vont aussi veiller à éviter toute interaction avec lui pour qu'il reste le plus sauvage possible. Et ensuite, une fois en Sardaigne, une fois sur place, le vautour sera là aussi d'abord placé dans une volière d'acclimatation avec d'autres jeunes vautours issus soit d'autres parcs zoologiques, soit de sauvetage dans la nature. Et le but serait de les relâcher ensuite au printemps. Mais pour acheminer ce vautour jusqu'en Sardaigne, il y a un coût qui s'élève à 5000 euros. Un coût qui est assez élevé pour un parc de la dimension de pêcherie. Et le zoo a donc lancé une cagnotte en ligne qui est accessible sur leur site ou sur leurs réseaux sociaux. Et la cagnotte sera accessible même plusieurs mois après la réintroduction du vautour, donc vous pourrez toujours y participer maintenant ou dans les mois à venir. Alors ce grand projet de réintroduction des vautours fauves, il est notamment organisé par la Vulture Conservation Foundation, qui est une organisation mondiale consacrée à la protection des vautours. Alors ces oiseaux, ils sont aujourd'hui menacés par la persécution humaine principalement, du fait de l'image néfaste dont ils font l'objet, on le sait tous, hein, les éleveurs de bétail notamment les voient comme une menace. Donc ils les empoisonnent via les carcasses dont se nourrissent les vautours pour les tuer. Alors que ces derniers sont complètement charognards. Ils ne s'attaquent pas du tout à des animaux vivants. Ils se nourrissent uniquement de charognes, de cadavres d'animaux. Et les vautours subissent aussi à travers le monde la perte grandissante de leur habitat et les activités de loisirs qui perturbent notamment leur nidification. Et ils sont aussi victimes, comme beaucoup d'oiseaux, des collisions avec les lignes électriques. Alors même si pour l'instant, à l'échelle mondiale, le vautour fauve il n'est pas menacé, l'espèce est classée en préoccupation mineure par l'UICN, il est important de réagir immédiatement, de ne pas attendre que l'espèce soit véritablement menacée. Donc voilà, il est important de réagir rapidement pour que l'espèce ne soit pas réellement considérée comme menacée dans un avenir plus ou moins proche. Alors à savoir que quand même l'espèce est déjà localement menacée dans certaines régions du monde, notamment comme en Sardaigne, où la population a besoin d'être renforcé. Et il faut savoir aussi qu'en parallèle, le bioparc de Douai-la-Fontaine a lui aussi envoyé un vautour fauve né au sein du parc en mai 2023, en Bulgarie cette fois-ci, dans le même but d'être réintroduit dans la nature. Alors il a lui aussi d'abord été placé en volière d'acclimatation avant d'être relâché dans les gorges de Kresna, dans le sud-ouest de la Bulgarie. Alors, il faut savoir que le bioparc participe très activement au programme de réintroduction des vautours fauves, mais aussi des vautours moines, puisque tous les petits de ces deux espèces nés au parc depuis 1983 ont été réintroduits dans la nature. Alors, soit dans le sud de la France, dans les Cévennes notamment, soit en Bulgarie, ce qui représente un total de plus de 60 vautours relâchés dans la nature.
Voilà. C'est impressionnant.
C'est impressionnant, c'est du très très beau travail.
Ouais.
Une bonne nouvelle pour les vautours.
Et comme quoi, c'est pas toujours à l'autre bout de la planète. Hein. C'est des espèces qui sont près de chez nous, donc c'est pas mal, mais c'est pas tout. Parce qu'il y a un autre parc qui a envoyé un autre animal il y a pas longtemps dans le but de le réintroduire dans la nature. C'est Thoiry.
Ouais, c'est Thoiry, le zoosafari de Thoiry, qui s'apprête à envoyer un de ses chevaux de Przewalski au Kazakhstan. Alors, c'est une jument qui est partie il y a déjà... Alors, elle est déjà partie, j'ai dit, qui s'apprête à rejoindre, mais elle est déjà partie en direction du zoo de Berlin, d'abord, tout comme les bisons de pêcherie. Une première étape avant son départ pour le Kazakhstan et un relâché dans le milieu naturel. Alors, la jeune femelle, elle va être mise en contact avec six autres femelles d'abord, nées dans d'autres parcs zoologiques en Europe, afin de tisser des liens sociaux avec elles. Et puis, un second groupe qui est composé uniquement de mâles et lui aussi en formation au zoo de Prague, en parallèle, en République tchèque. Alors, les deux groupes, ce qui fait un total de 14 individus, seront rassemblés ensuite à leur arrivée dans le centre de réintroduction d'Altindala au Kazakhstan, en mai prochain. Les chevaux passeront quelques temps d'abord dans un enclos d'acclimatation, toujours pareil, à proximité du point de réintroduction, avant d'être totalement libérés dans les steppes kazakhs. Le zoo safari de Thoiry participe au programme d'élevage européen des chevaux de Przewalski pour introduire cette espèce dans les steppes au Kazakhstan. Et c'est une espèce qui a longtemps été considérée comme le dernier cheval sauvage. C'est une espèce originaire des steppes d'Asie centrale et qui descend d'une population de chevaux domestiqués par un peuple au Kazakhstan il y a plus de 5000 ans. Et l'espèce a dû faire face à différentes menaces qui ont conduit à sa disparition dans la nature à la fin des années 60. Et aujourd'hui, grâce aux efforts de conservation et à la réintroduction d'individus issus de parcs zoologiques, le cheval de Przewalski est considéré, comme tu l'as dit tout à l'heure, en danger d'extinction par l'UICN.
Ouais.
Voilà, donc ça fait partie des espèces qui ont pu revoir leur retour à la vie sauvage grâce aux parcs zoologiques.
Ouais, exactement. Bien voilà pour ces actualités de conservation. Un mois chargé, parce qu'on a eu pas mal de choses à revoir. Tout ça, c'est des articles que vous pouvez retrouver sur le site. Hein. Il y a deux articles sur pêcheraie, sur la réintroduction des bisons et celle du vautour. Et je remercie aussi Laura Da Silva qui nous a accordé du temps pour parler de tout ça dans les moindres détails. Et pour l'actualité sur Thoiry, c'est aussi sur le site. Et on espère en avoir d'autres à vous partager dans les prochains mois, les prochaines semaines, dans nos futurs épisodes. Là, on a fini pour la France. Et je te propose qu'on aille, comme d'habitude, faire notre petit passage mensuel dans les parcs zoologiques européens. Comme tu viens de parler beaucoup, je vais peut-être commencer.
Oui, vas-y, commence. Ouais.
Je vais commencer aux Pays-Bas, à Appenheul, qui a annoncé la naissance d'un petit bonobo. Alors, il s'agit du premier petit de Panji, la femelle. On ne sait pas encore si c'est un mâle ou une femelle, mais cette naissance porte à 13 le nombre de bonobos hébergés à Appenheul. Et ce n'est pas la seule naissance de bonobos ces derniers temps, puisqu'un autre petit est né toujours aux Pays-Bas, au Dierenpark Rhenen, en février dernier. La mère est expérimentée, ce n'est pas son premier petit, elle avait eu des jumeaux auparavant. Alors, j'ai été surpris d'apprendre ça, mais effectivement, les bonobos... sont capables d'avoir des jumeaux. Pour ce parc, c'est la seconde naissance en quelques mois, parce qu'il y en avait eu une en juillet dernier, en 2023. Et pour le nouveau-né de cette année, on ne connaît pas non plus son sexe. Ce sera su prochainement, en fonction de quand les animaliers auront accès aux petits. Le bonobo, il est classé en danger sur la liste rouge de l'UICN. Il fait l'objet d'un EEP. Et on dénombre environ 145 bonobos dans les zoos européens, dont le plus grand groupe se trouve chez nous à la Vallée des Singes.
Alors moi, je vais partir en République tchèque, au zoo de Prague, qui a accueilli récemment 5 couples de Arles Upar. Alors le Arles Upar, c'est une espèce de canard sud-américain qui est très très rare. Alors, ces couples sont présentés depuis le 23 mars à Prague. Ils viennent directement du Brésil, où le parc soutient depuis longtemps des efforts de conservation visant à sauver cette espèce qui est au bord de l'extinction, puisqu'elle compte seulement entre 50 et 250 individus matures dans le milieu naturel. Et jusqu'à maintenant, seul le zoo parquet Itatiba au Brésil élevait cette espèce dans le monde. Et donc, Prague devient désormais le seul établissement en dehors du Brésil à élever cette espèce dans le monde. Alors le Arles Upar est aussi appelé Arles du Brésil et c'est une espèce qui est reconnaissable à son plumage grisâtre et à sa tête noire qui est dotée d'une longue crête à l'arrière qui est plus courte chez la femelle. Et cette espèce ne vit que dans quelques localités du centre-sud du Brésil. Il s'agit de l'une des espèces de canards les plus rares au monde, si ce n'est la plus rare au monde, parce que vraiment, il n'y en a vraiment plus beaucoup dans la nature.
Ils ne seront pas tous présentés au public. Hein. Je crois qu'il n'y en a que un ou deux couples qui seront présentés. Ouais,
il semble qu'il n'y a qu'un couple pour l'instant en présentation.
Les autres, ils seront élevés dans les coulisses du parc. Moi, ensuite, je voudrais vous parler de nouveautés. Alors, j'ai choisi deux nouveautés, mais on va commencer par la première. C'est une belle nouveauté qui me plaît beaucoup. Et pour cause, ça parle de Babiroussa. C'est en Allemagne, au Tierpark Berlin, et ça vient d'ouvrir là, il y a quelques jours. Il s'agit d'une toute nouvelle zone de 3000 m2, nommée en allemand, hein. J'ai fait la traduction comme j'ai pu, l'île des loutres. Et ça évoque la biodiversité de l'île de Sulawesi en Asie du Sud-Est. Cette nouvelle zone, elle abrite trois espèces en cohabitation. Il y a un couple de loutres cendrées, un groupe de quatre babiroussa et trois macaques noirs à crête. Le parc souhaitait présenter ensemble des animaux semi-aquatiques avec les loutres, des animaux terrestres avec les babiroussa et des animaux arboricoles avec les macaques. Donc il dispose ici d'un grand espace avec un plan d'eau de 600 mètres carrés, des structures pour grimper pour les macaques. Et les visiteurs ont la possibilité de les observer depuis le chemin de visite, depuis une passerelle ou à travers de grandes baies vitrées. Alors j'ai vu quelques photos et franchement, le décor a l'air vraiment sympa. Je vous invite à y jeter un petit coup d'œil quand vous avez 5 minutes. Mais sachez aussi que ce type de présentation existe dans un tout autre style, évidemment. Existe en France, au CERSA plus précisément, où ces trois espèces vivent déjà... ensemble, quasiment ensemble, parce que les babiroussa sont séparés, mais les macaques noirs à crête et les loutres cendrées vivent dans le même environnement.
Ça fait une belle cohabitation, c'est pas mal.
Ouais, c'est sympa.
Très sympa. Alors moi, je vais prendre direction le zoo de Chester en Angleterre, qui présente depuis peu, pour la première fois de son histoire, donc soit en 93 ans d'existence, des panthères des neiges. Alors il s'agit d'un couple qui est composé de Nubra, la femelle qui est venue du zoo de Krefeld en Allemagne, et de Yashin, le mâle qui est venu du Highlands Wildlife Park en Écosse. Alors ce couple de panthères des neiges est visible depuis le 25 mars au zoo de Chester, au sein d'un tout nouvel espace qui leur a été spécialement conçu, en recréant et qui recrée assez bien leur milieu naturel. Là aussi j'ai vu des photos, ça a l'air d'être une belle installation,
ouais.
Avec de grandes baies vitrées pour observer les animaux.
Immense baie vitrée, ouais.
Ouais.
Ça donne envie. Ouais, ça, pour les photographes, c'est pas mal.
C'est pas mal, ouais. Mm. Et à savoir aussi que plus de 600 tonnes de roches ont été utilisées pour aménager cet espace.
Ouais.
Voilà.
C'est un décor naturel.
Très naturel, et ça fait une belle...
C'est une volière, hein.
C'est une volière, ouais. Il y a un filet qui recouvre l'enclos. Ouais. Mm. Et je crois qu'il y a même des zones dans l'enclos qui pourront être maintenues à température... sous des températures assez basses pour l'été notamment, d'après ce que j'ai compris. Des sortes de caves, ou je ne sais pas comment expliquer, mais des zones dans l'enclos qui pourront permettre aux panthères des neiges de mieux résister à l'été.
Ouais.
Voilà.
Comme un peu les ours polaires à Peridaïsa.
Par exemple, ouais. Mm.
Alors moi, je vais terminer ma partie européenne. J'ai choisi, au-delà d'une actualité, je vais vous parler d'un projet qu'on pourrait qualifier un peu hors du commun. C'est en Suisse, au zoo de Zurich, qui souhaite lancer le chantier d'une nouveauté incroyable qui devrait voir le jour seulement en 2028. Donc, il va falloir être patient. Il s'agit d'une nouvelle volière qui aura pour nom la volière du Pantanal. Elle devrait s'étendre sur 11 000 m2, donc c'est plus d'un hectare. Avec une forme qui est très particulière, que je ne peux pas vous décrire comme ça à l'oral. Il y a une hauteur qui pourra atteindre 35 mètres par endroit, même si ce sera assez homogène. Et elle aura pour thématique, comme son nom l'indique, l'une des plus grandes zones humides du monde, le Pantanal en Amérique du Sud. Les visiteurs pourront découvrir cette volière près de l'eau, mais aussi en hauteur, et évoluer au milieu d'une diversité d'espèces impressionnantes. On parle de différentes espèces de grands perroquets, notamment des haras hyacinthes, des tamarins lions dorés, des tamarins de Goldie, des conures, des amazones, des tapirs terrestres, des fourmiliers géants, des flamands du Chili, des ibis. On aura le temps d'en reparler plus en détail d'ici là, hein, parce que 2028, encore un petit peu de temps avant de voir ça. Mais je trouve que cette idée est extra, et je voulais vous la partager pour que vous puissiez aussi faire vos recherches dessus, et voir ce que ça devrait donner à la fin. Le Zoo de Zurich prévoit plein de choses, hein, à l'horizon 2050. C'est large, mais il y a vraiment des trucs très intéressants. On en reparlera. Ça parle aussi de nouveaux espaces pour les gorilles. Donc, je pense qu'il y a des choses qui vont arriver qui seront très, très, très intéressantes.
Bon, on a hâte de voir tout ça.
Ouais.
Et du coup, moi, je vais terminer mes actus européennes avec une naissance. Celle d'un petit mâle éléphant d'Afrique qui est né au Bioparc Valencia en Espagne. Alors ce petit, il est né très précisément à 2h14 du matin, le 14 mars dernier. Il s'agit du deuxième éléphanto d'Afrique à voir le jour au parc espagnol. Alors le petit, il a parfaitement survécu aux premiers jours de sa vie, qui sont assez critiques chez les éléphants, grâce à l'attention et aux soins apportés à la fois par sa mère, qui s'en est très bien occupée, et par les équipes animalières. Et donc cette naissance est un excellent espoir pour la conservation de cette espèce, de l'éléphant de savane d'Afrique, qui est classé en danger d'extinction, depuis pas très longtemps d'ailleurs. Oui. Jusqu'à peut-être il y a 2 ou 3 ans, elle était classée vulnérable, et récemment,
récent, ouais.
C'est tout récent, depuis tout récemment, elle est classée en danger d'extinction. Et c'est aussi du coup une bonne nouvelle pour la population des parcs zoologiques européens d'éléphants d'Afrique, chez qui les naissances sont beaucoup moins courantes que chez les éléphants d'Asie, pardon.
Oui.
Quoique dernièrement, on en a eu quand même, tu les avais évoqués dans le dernier épisode,
ouais.
Aux Pays-Bas notamment. Mm. Donc voilà, c'est d'excellentes nouvelles pour les éléphants d'Afrique.
Ouais, tout à fait. Bien voilà, c'est la fin de cet épisode d'actualité. On vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Comme je vous l'avais dit dans l'épisode précédent, si vous souhaitez participer avec nous à cette aventure Nature et Zoo, si vous avez, si vous pensez pouvoir apporter quelque chose, que ce soit des articles, que ce soit une partie dans un épisode du podcast ou des idées d'épisodes de podcast, des idées d'articles, des idées de sujets, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Si vous pensez pouvoir nous rejoindre et venir participer à tout ça, n'hésitez pas à nous envoyer un message. On vous répondra avec grand plaisir et on verra ce qu'il est possible de mettre en place. On voudrait s'agrandir un tout petit peu, essayer d'avoir un petit peu plus de choses à partager à droite à gauche, que ce soit sur le site ou sur les réseaux sociaux ou dans le podcast. Donc n'hésitez pas, voilà. Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à notre podcast sur votre plateforme favorite, celle que vous utilisez pour écouter. Et si notre émission vous plaît, pensez à la noter et à la partager autour de vous la faire découvrir à un maximum de personnes.
Voilà, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre comme d'habitude sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. N'hésitez pas aussi à venir nous rejoindre sur nos différents groupes Facebook qui sont dédiés au partage de photos, vidéos ou d'informations sur les zoos et les animaux en France. Et n'hésitez pas aussi à aller consulter notre site internet naturezoo.fr où vous retrouverez tout ce que vous cherchez à propos des parcs zoologiques français. Voilà. Que ce soit la liste des zoos en France, les animaux qu'ils hébergent et des fiches sur les espèces. Voilà, vraiment tout ce que vous cherchez à propos des parcs.
Ouais.
Le site est très complet.
Et on espère le remplir de plus en plus. Envoyez-nous vos messages, vos questions, tout ce que vous voulez. On vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode de Nature et Zoo, le podcast. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous et à bientôt les passionnés de zoo.
À bientôt tout le monde.